Bonsoir. Vous venez d'embarquer dans le sous-marin pour une heure d'actu étudiante, culturelle, politique, associative, économique ou sociale. Notre sous-marin n'est pas jaune, mais il fait bon y passer une heure tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h. Enfilez donc un scaphandrier, il y en a pour toutes les tailles et pour tous les goûts. Je suis Tiffaine pour vous accompagner pendant cette heure au fond de l'eau. Mon équipage change tous les soirs et mardi oblige. Quentin et Pierre-Antoine sont avec moi ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Ce soir, voilà un sous-marin tout à fait éclectique puisque dans une première partie, vous entendrez Catherine Battreau et Pascal Adeline du planning familial. Puis dans une seconde partie, changement de thème et de décor avec une interview de Robert Swinston, directeur artistique du Centre National de Danse Contemporaine depuis un an. L'Américain évoquera son travail à Angers et ses premières productions présentées au public dès le 31 janvier au Quai. Parce qu'on ne change pas un sous-marin qui fonctionne, vous retrouverez comme chaque jour en fin d'émission l'agenda et la bulle sonore. Les hydrophones sont branchés, c'est parti. Voilà deux semaines qu'elle a quitté le navire Nanette. Notre Nanette du mardi n'est point dans le sous-marin ce soir pour cause d'examen en ce début d'année. Consolez-vous et écoutez Ode Zen avec Chewing Gum.
Y'a comme un goût de déjà vu dans son chewing-gum. Mastique et reste au garde à vous pendant qu'elle swing l'homme. Belle sur le ring, elle boxe avec son jean. Un été sun sur le dream avec un cocktail gin. Un air de voyez-vous avec ce dit John. Voilà qu'elle sent le coup de foudre sur ce big love. Elle remonte son string en face de son James Dean. Le steak brûle sur le gris, il est en planche d'Evbrie. Un air de déjà vu dans son only you. La plastique reste au rendez-vous quand son body move. Son instinct de film et son blouse d'andine, voilà son festin de mime, elle tire dans le mille. Y'a comme un ton de voyez-vous dans sa gueule de louve. Le type même un peu voyou dans son regard groove. Ville sort ses bling bling devant ses yeux qui brillent. Et boit ses lèvres toutes clean avant que le réveil dring. Et vous, comment allez-vous quand le baby cry? Elle mate et l'appelle daddy quand il voit son sky. C'est sa West Side Story, manque le happy end. Il sort son best style, oh oui, devant sa mimi dinde. Un air de désabus quand minuit sonne. La petite passe au désaveu sur ses belles dames. Miss Night Express file au milieu des buildings. Se casse dans son Austin sur un air de Sting. Y'a comme un goût de calories dans son chewing-gum. Les cheveux gras, les cheveux plats, hautes comme trois pommes. Elle était ugly sur le ring et catch avec son jeans. Cash quand se pointe Jimmy avec sa milady. Des rêves d'American Idol nichés dans sa tête. À en cacher ses rondeurs derrière sa salopette. Elle ne songe même pas à l'équation slim string. Autant offrir à un manchot une poignée de Breitling. Y'a comme un air de rhythm and blues au fond de ses yeux. Elle détourne son regard vexé de tous les beaux gars. Elle se dit qu'un jour viendra un sourire de star, un qui aura le Stenson, la gueule d'Humphrey Bogart, un qui lui soufflera des mots doux, pou, pou, pidou, qui la fera marcher à cloche-pied sur les rayons de lune, un qui la prendra dans son Teddy North Carolina, un qui pour être beau n'aura pas besoin de Gomina. Y'a comme un goût de bigoudi dans son chewing-gum, elle va fêter Happy Birthday dans un nightclub. Elle était jolie sur la piste et va avec son style, elle a du sexe à pile sur Aretha Franklin. Y'a comme un goût de bistouri dans son chewing-gum, il a le style simplet et le regard sitcom. Des tas de loups autour de son bombé Bonda. La soirée s'éteint sur la banquette de la Honda.
C'était le chewing-gum d'Ode Zen. Il y a moins d'un mois, en Espagne, le gouvernement a voté une loi restreignant l'accès à l'IVG aux femmes dont la grossesse présente un risque ou à celles victimes de viol. Un recul qui nous a fait nous poser la question de la situation en France, tant en termes d'avortement que de contraception. Pour évoquer ces questions, le sous-marin s'est rendu au planning familial. L'association féministe existe depuis presque 60 ans, féministe donc, vous allez l'entendre, mais aussi et surtout très active sur le plan de la prévention et de l'éducation. Catherine Batreau, membre du conseil d'administration et bénévole au planning familial d'Angers, et Pascale Adeline, conseillère, ont répondu au micro de Radio Campus Angers. Catherine Batreau, Pascale Adeline, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Radio Campus aujourd'hui. Alors, première question un petit peu historique et rétrospective. Le planning familial a été créé dans les années 50. À l'époque, il n'y avait pas la pilule, il n'y avait pas l'avortement. Aujourd'hui, on a gagné tout ça. Alors, pourquoi il y a encore besoin d'un planning familial ?
Il y a besoin. D'abord, c'est en 56 que le planning familial a été créé. Il s'appelait la maternité heureuse. Donc, effectivement, on a gagné l'accès à la contraception avec Monsieur Neuwirth, qui avait fait passer la loi, et puis l'accès à l'avortement avec Madame Veil. Donc, ça, ce sont des acquis, 67 pour Monsieur Neuwirth, 75 pour Madame Veil. Eh bien, pourquoi on a encore besoin ? Parce que l'information, il faut la faire quotidiennement. Il y a sans cesse de nouvelles jeunes femmes et de jeunes hommes qui ont besoin d'avoir des connaissances sur l'accès à la contraception et à l'avortement. Donc, ces nouvelles personnes, il faut à nouveau les informer, leur faire connaître leurs droits. C'est pour ça que c'est jamais totalement acquis. Et il y a aussi beaucoup de freins moraux de la part de la société, une mauvaise opinion de l'avortement, il y a un aspect moral.
Dans la mesure où il y a aussi une dimension du planning qui va au-delà simplement des notions de contraception et d'avortement, qui sont la lutte pour les droits des femmes et pour l'égalité hommes-femmes. Or, c'est une thématique extrêmement travaillée en ce moment, sur laquelle on est beaucoup, beaucoup sollicité. Et c'est une thématique qu'on travaille au planning depuis de nombreuses années, puisque c'est une association féministe. Donc évidemment, ça c'est complètement d'actualité. Et d'ailleurs, ça se matérialise notamment par le fait que beaucoup maintenant d'établissements scolaires qui nous demandent intervenir dans les classes, nous demandent d'intervenir sur la thématique des relations filles-garçons, parce qu'ils identifient des comportements au niveau des classes des jeunes qui sont en cours, qu'ils jugent préjudiciables et que ça fait partie aussi de l'accession à une connaissance sur ce que c'est qu'être citoyen et le vivre ensemble. Donc c'est complètement d'actualité.
Alors au planning familial, vous le disiez, vous intervenez auprès des scolaires. Il y a aussi tout un travail sur la contraception, l'IVG. Quelles sont les autres actions que vous menez auprès du public qui vient vous voir ?
Alors, au-delà des séances qu'on peut animer dans les collèges, les lycées, on a également toute une mission d'accueil dans les locaux même de l'association, où là, les personnes peuvent venir pour parler de la sexualité au sens large. Ça va être aussi bien chercher de l'information effectivement sur la contraception que venir faire un test de grossesse. Ça va être venir parler de violence, puisqu'on fait de l'accompagnement des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. Ça peut être faire du conseil conjugal. Nous sommes conseillères conjugales et familiales. Ça peut venir, bien sûr, venir chercher de l'information sur l'IVG. Ça, c'est ce qu'on va faire à l'association. À l'extérieur, on travaille beaucoup avec des groupes de jeunes, mais pas uniquement. On travaille aussi avec des groupes d'adultes. Je pense notamment aux personnes en situation de handicap. Je pense à des groupes femmes aussi. Mmh. Mais toujours, bien sûr, sur le champ des thématiques que nous travaillons depuis longtemps, c'est-à-dire la sexualité, la relation homme-femme au sens large.
Je pense qu'il ne faut pas oublier un dernier créneau quand même, c'est qu'on est un centre, je dirais, de formation. On fait des formations sur des thèmes bien précis, correspondant évidemment à nos objectifs du planning familial, auprès d'adultes qui sont en contact avec des jeunes. Ça peut être des animateurs, ça peut être des enseignants, ça peut être aussi des apprentis. Enfin, on fait quand même une formation pour des adultes.
Oui, tout à fait, oui.
Qui est quand même assez important chez nous.
Oui, pour les professionnels relais. C'est vrai qu'on anime des sessions assez régulièrement.
Alors, hormis les préjugés dont vous venez de parler concernant l'égalité homme-femme, quelles sont les idées reçues que les personnes qui viennent vous voir ont en termes de contraception, de protection ?
Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, et là, merci Internet. Autant Internet peut être un moyen d'information très très intéressant, autant il véhicule aussi un peu tout et n'importe quoi. Alors, ça peut être des choses extrêmement concrètes. On peut entendre des choses comme « si je prends plus de 3 fois dans ma vie la pilule du lendemain, je vais être stérile ». Ça peut être il n'y a pas très longtemps, il y a une jeune femme qui m'a dit: est-ce que c'est vrai que si on fume le filtre d'une cigarette, on devient stérile? J'étais très étonnée. Et puis ce qu'on entend beaucoup, c'est effectivement des choses qui vont être liées au rôle qui est censément dévolu aux hommes et aux femmes. Donc j'ai pas très envie d'avoir des rapports sexuels, mais je le fais pour faire plaisir à mon copain parce que les hommes ont des besoins sexuels, par exemple. Ça peut être toutes les femmes qui subissent un avortement, enfin qui vivent un avortement, sont marquées à vie au fer rouge et ne s'en remettront jamais. Enfin, il y a énormément de choses. Hein. Là, c'est difficile de vous faire un panorama.
Comme de penser que la contraception, elle est uniquement à la charge des femmes. Enfin, les hommes prennent un préservatif, donc là, ils ont une action. Mais il existe depuis 2001 une loi qui autorise hommes comme femmes à une vasectomie, c'est-à-dire à se rendre stérile. Hein, et ça, les hommes peuvent le faire. Il y a des moyens contraceptifs pour les hommes. Il y a la méthode de la chaleur, bon, qui se fait surtout à Toulouse, puisque le médecin spécialiste. Hein. Mais il y a des contraceptions pour les hommes, mais qui sont très, très méconnues, parce que dans l'idée des gens dans la société, c'est la femme qui doit prendre la contraception. Donc voilà encore une idée très préconçue qu'il faudrait changer. Mais alors ça va être
c'est du travail de fond.
Parce que l'homme, s'il prend une contraception, ça va lui ôter sa virilité. Tout ça, c'est entre guillemets.
Alors justement, en parlant de la contraception, il y a un pass contraception qui a été mis en place. J'ai vu sur la porte que le métier à la disposition. En quoi ça consiste exactement ?
Alors c'est un dispositif donc qui fait partie d'un dispositif plus large du système des passes qui est mis en place par le Conseil régional. Là, c'est un pass prévention contraception. C'est une sorte de chéquier qui est délivré gratuitement et qui permet à un jeune ou une jeune, en gros l'idée c'était que le jeune ou la jeune soit autonome au niveau de sa contraception pendant un an. Un chéquier correspond à peu près à ça. Donc ça lui permet de disposer de bons de consultation, de bons destinés aux pharmaciens et de bons destinés éventuellement à un laboratoire d'analyse qui vont lui permettre d'avoir accès déjà à une consultation médicale qui va donner lieu à une ordonnance pour voir ce procurer un moyen de contraception en pharmacie ou une analyse en labo. Et le tout de manière anonyme et gratuite. Donc en fait, l'idée, c'est de leur permettre d'avoir de l'autonomie par rapport à la gestion de leur contraception et puis aussi de la prévention des infections sexuellement transmissibles, puisqu'on peut faire un dépistage aussi de cette manière-là. Et c'est vraiment destiné aux jeunes, notamment, qui ne sont pas à proximité de centres-villes, par exemple, où il y a des centres de planification, où ils ont également accès de cette manière-là. Mais on a pensé aussi aux jeunes qui sont en milieu rural, qui ne peuvent pas obligatoirement facilement se déplacer pour venir à Angers, pour venir à Saumur, ou là où il y a des centres de planif. Et donc, ça leur permet d'être autonomes et éventuellement d'être dans la confidentialité. Tous les jeunes qui viennent chercher un pass ne souhaitent pas obligatoirement se cacher de leurs parents par rapport à ça. Donc là, on est plutôt sur une recherche d'autonomie, mais pas obligatoirement de confidentialité. Mais il y a certaines situations où, en plus, il y a ce désir de confidentialité.
Il est accessible pour tous les jeunes qui le souhaitent.
Alors non, il y a des conditions particulières. Donc soit ce sont pour des jeunes qui sont lycéens ou apprentis, c'est-à-dire qui sont scolarisés dans des lieux bien précis, qui sont les lycées publics, les lycées privés s'ils le souhaitent, hein, mais là c'est à leur discrétion. Lycée public, lycée classique ou professionnel, les MFR, les maisons familiales rurales, qui font partie du dispositif, et puis donc tous les centres d'apprentissage. S'ils ne sont pas scolarisés dans ces lieux-là, ils peuvent venir en chercher au planning familial, mais il faut qu'ils aient moins de 20 ans. Par contre, s'ils ont plus de 20 ans, mais qu'ils sont scolarisés dans un lieu qui est éligible, ils peuvent aussi en avoir.
Je voudrais rajouter que bon, c'est une décision du Conseil régional, Monsieur Oxiet, hein, ça se fait pas forcément dans toutes les régions, parce qu'on avait un paradoxe malgré tout, l'avortement comme la pilule du lendemain, était donnée gratuitement pour les mineurs. Mais la contraception était à leur charge. Donc on arrive à une situation complètement paradoxale où des jeunes se disaient « De toute façon, si je suis enceinte, j'irai à l'hôpital et j'aurai un avortement. » Il aurait fallu que la contraception soit totalement accessible, sans la payer, quoi, complètement gratuite. Et c'est ce qu'a essayé de faire le Conseil régional en donnant une contraception totalement gratuite, puisque ça comprend aussi les préservatifs.
Oui, tout à fait. Après, il faut rappeler que dans les centres de planification, pour les mineurs, et dans certains cas pour les jeunes majeurs, la contraception peut être aussi également totalement gratuite. Ça dépend un peu, il y a des critères un peu précis, mais ça peut aussi se faire comme ça.
Alors, on va revenir sur un sujet d'actualité fin décembre en Espagne. Une loi anti-avortement a été votée, une loi qui fixe deux conditions pour autoriser l'avortement. La première, c'est que celui-ci soit nécessaire en raison d'un grave danger pour la vie ou la santé physique ou psychologique de la femme, ou alors que la grossesse soit une conséquence d'un délit contre la liberté ou l'intégrité sexuelle de la femme, autrement dit un viol. Comment vous expliquez au planning familial ce retour en arrière dans un pays limitrophe, et il y a un mois à peine ?
Moi, je pense que ce retour en arrière est un acte politique. Hein. La loi qui a été votée permettait justement au candidat qui était le président du gouvernement, M. Rajoy, ça lui permettait d'avoir des électeurs de droite, hein, tout simplement. Hein. C'est un acte politique. Il y a un mouvement arrière qui se fait parce que ça se radicalise dans tous les pays. Au moment au Parlement européen, justement, il y avait une Portugaise qui avait proposé... Un document qui permettrait d'uniformiser un petit peu dans tous les pays européens. C'était le document Estrella, et il a été refusé, alors que ça aurait été une avancée si dans tous les pays européens on avait pu avoir justement cet accès à l'avortement, alors évidemment avec des petites conditions différentes, mais là en Espagne on retourne complètement en arrière. Et en plus, les mineurs ne pourront avorter, si elles se trouvent dans ces situations-là, qu'avec l'autorisation des parents. Et quand l'avortement sera permis pour viol, ça ne sera que si la personne a porté plainte. Enfin, des restrictions...
Bah, très clairement, on est dans un objectif de restreindre, voire pratiquement de faire disparaître ce droit-là, ce qui ne va pas aller sans poser de soucis. Moi, je pense aussi à l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire la zone frontalière française, où on va obligatoirement, de ce fait, avoir des afflux de femmes qui vont essayer de venir obtenir une IVG sur la zone frontalière française, comme aujourd'hui, certaines femmes françaises partent à l'étranger, là où les délais d'accessibilité à l'IVG sont plus longs. Ben, on va avoir le même phénomène de femmes espagnoles qui vont venir en France. Ça me paraît évident.
Et les femmes du sud de la France, en dessous de la Loire, qui allaient donc majoritairement sur Barcelone, hein, quand elles étaient hors délai. Donc quand elles sont hors délai, nous, on leur donne un dossier, on les aide. L'avortement n'est pas légal en France au-delà de 12 semaines, sauf des situations très particulières. Mais il est reconnu, c'est tout à fait notoire, que le planning familial peut aider les femmes à aller à l'étranger. Donc les Françaises qui se trouvaient hors délai, 14 semaines, pouvaient encore aller en Espagne. Mais là, elles vont pas pouvoir. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire, ces femmes-là? Il va falloir aller en Angleterre, en Hollande. Ça va compliquer les situations, bien entendu.
Et en France, comment va l'accès à l'avortement?
Alors, c'est extrêmement variable selon les régions.
On va parler de la nôtre.
Alors, la nôtre, franchement, Pays de la Loire, la situation est quand même assez bonne. Particulièrement dans le Maine-et-Loire, on note pas de dysfonctionnement. Les dysfonctionnements, ils arrivent effectivement. Nous avons un certain nombre de cas d'IVG hors cadre, hors délai, qui arrivent au planning pour information sur la manière de partir à l'étranger. Mais ce ne sont pas des IVG hors cadre qui interviennent dans un contexte où c'est parce qu'on n'a pas pu répondre à leurs demandes sur place. Hein. C'est parce que, par exemple, la découverte de la grossesse a été tardive, ou qu'il y a eu un changement de contexte familial. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte, mais c'est jamais parce qu'on n'a pas pu répondre à la demande à temps. Donc là, franchement,
oui,
de ce côté-là...
C'est vrai que ce n'est pas une situation inquiétante.
Non.
Non, non.
Une dernière question. Donc en France, le gouvernement a mis en place la gratuité de l'avortement, il me semble. Mm-hmm. Quel autre progrès, en général, vous attendez?
La contraception gratuite pour tous les hommes et toutes les femmes, déjà. Parce que là, ce que fait M. Oxiac, c'est c'est expérimental. Hein. Ça ne va pas forcément durer dans le temps. S'il y a un changement de personnage, les lois, ça peut changer. Il faut que ça soit une loi, qu'en France, toutes les femmes puissent avoir gratuitement, et comme les hommes, accès à la contraception.
Et tous les moyens de contraception, parce qu'il y a aussi la notion de pouvoir choisir la méthode qui vous convient. Selon le moment de la vie où vous en êtes, selon la personne... La pilule, qui est vraiment le moyen de contraception le plus diffusé en France, ne convient pas à tout le monde. Alors, elle ne convient pas à certaines personnes pour des raisons purement médicales, mais elle ne convient pas aussi à certaines personnes au titre de l'observance. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui c'est compliqué de prendre une pilule tous les jours, par exemple. Alors, il y a d'autres moyens de contraception qui évitent cette contrainte-là, qui est parfois très très bien vécu par certaines femmes, mais pas par d'autres. Je pense par exemple à l'implant, qui peut être une très bonne solution quand une personne nous dit « moi je crains de pas arriver à être assez rigoureuse et à oublier ma pilule de temps en temps ». On sait qu'il y a quand même énormément d'IVG qui se passent dans ce cadre-là, sur un oubli de pilule ou un échec de contraception. Donc il faudrait que tous les moyens puissent être pris en charge de manière à ce que les femmes puissent vraiment choisir la méthode qui leur convient.
Merci beaucoup Catherine Batraud et Pascal Adeline d'avoir répondu à nos questions.
Bien, au revoir et merci de nous permettre de nous entendre au campus.
Voilà, exactement. Merci à vous.
Catherine Batraud et Pascal Adeline, donc du planning familial à Angers. Tout de suite, nous allons retrouver Quentin, notre chroniqueur géopolitique, mais avant, je vais parler anglais. Let's listen to Heaven and Hell, William Wynyabore. Mardi, c'est géopolitique. On sort la tête du sous-marin et on regarde ce qui se passe en dehors des frontières avec Quentin. Quentin, tu nous parlais la semaine dernière de la Tunisie et de sa situation encourageante. Encourageante, elle l'est d'autant plus par rapport à l'Égypte qui a pourtant mené sa révolution à la même période.
Aujourd'hui et demain, les Égyptiens sont appelés à voter par référendum une nouvelle constitution. Scrutin qui se déroule sous haute surveillance, dans un climat nauséabond. Entre fermeture de journaux, licenciement des journalistes de télévision et de radio qui osent critiquer le gouvernement, on assiste à une dérive totalitaire certaine. Par exemple, 3 journalistes d'Al Jazeera ont été arrêtés. Il ne fait aucun doute que l'appartenance de la chaîne de télé au Qatar n'a pas joué en leur faveur. Pourquoi ? Parce que le Qatar finance également les frères musulmans. Récemment, la stigmatisation dont ces derniers font l'objet n'a plus suffi. Ils ont été déclarés groupes terroristes. Il est vivement déconseillé de leur montrer la moindre sympathie. Tout symbole qui pourrait rappeler un quelconque soutien à l'ancien président Mohamed Morsi ou à son organisation est prohibé. C'est presque comme si l'actuel gouvernement faisait tout pour provoquer des réactions violentes du côté des partisans des frères musulmans, pour pouvoir ensuite mieux les pointer du doigt. C'est désormais officiel. Comme sous le régime de Nasser, les religieux sont désignés comme l'ennemi public numéro 1. En France, pour éviter de mettre la lumière sur les manques de résultats politiques et économiques, les socialistes nous divertissent avec le combat contre le racisme. Là-bas, c'est le combat contre l'extrémisme qui fait figure de marotte nationale.
Qui compose le gouvernement ?
Actuellement, et depuis la destitution de Mohamed Morsi, le gouvernement est composé du président Adli Mansour et de technocrates. Ce sont des personnes issues d'un spectre restreint du paysage politique égyptien, avec peu d'expérience du pouvoir. Mais ce n'est pas un secret que c'est l'armée et le général Abdel Fattah al-Sissi, à l'origine du coup d'État de juillet 2013, qui contrôle les affaires courantes. L'armée qui assure par ailleurs une autonomie encore accrue pour elle-même. Selon les termes de la nouvelle constitution, durant les 8 prochaines années, la nomination du ministre de la Défense sera soumise à l'accord du tout-puissant Conseil suprême des forces armées. C'est le serpent qui se mord la queue. Plus ça va, moins l'Égypte dispose de moyens de contrôle sur sa propre armée. Certes, il faut concevoir que dans ce pays, l'armée est une force politique à part entière, mais on se rapproche de plus en plus d'une dictature militaire institutionnalisée. Rappelons-nous que le dernier militaire au pouvoir en Égypte ne fut autre que le dictateur Hosni Moubarak, éjecté du pouvoir en février 2011 après la révolution. Il n'a pas laissé de très bons souvenirs. Condamné à la prison à vie un an auparavant, il voit pourtant depuis juillet 2013 sa situation s'améliorer. Il a été remis en liberté conditionnelle. Peut-être le signe d'une certaine affection des nouveaux hommes forts à son égard.
Et comment se porte l'Égypte sous ce régime ?
Pour l'instant, le redressement de l'économie, les réformes sociales ou les agitations djihadistes au Sinaï sont mis de côté. Les généraux se redorent doucement l'image aux dépens des frères musulmans, tout en profitant des soutiens apportés par l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou le Koweït. Ces monarchies du Golfe ne sont pourtant pas admirées pour un fonctionnement démocratique exemplaire, loin de là. Ces 3 pays ont apporté pas moins de 12 milliards de dollars d'aide à l'État égyptien. Ils souhaitent en effet appuyer l'armée dans leur répression des frères musulmans. Le rôle des frères dans les révolutions arabes, leur activisme, fait peur aux émirs. Des princes qui recherchent avant tout la stabilité chez eux, ce qui commence par la stabilité des pays voisins, surtout de l'Égypte, peuplée de 80 millions d'âmes. La prochaine étape de la construction égyptienne sera logiquement les élections présidentielles. Un nom revient dans toutes les bouches. Le président du Conseil supérieur des forces armées, le ministre de la Défense, le vice-premier ministre, le général en chef Abdel Fattah al-Sissi. Il est très probable qu'il se présente, également très probable qu'il sorte vainqueur des urnes, en jugé par sa popularité dans les rues du Caire. Les militaires avaient promis de ne pas se maintenir plus d'un an au pouvoir, dans la forme.
Quand on se donne les moyens de supprimer la principale opposition, la politique, ça devient tout de suite plus simple. Merci beaucoup, Quentin, pour cette chronique. Et on te retrouve, pas la semaine prochaine, parce qu'on sera à premier plan, mais la semaine suivante. Il y a un an exactement, le chorégraphe américain Robert Swinston prenait la suite d'Emmanuel Wynne à la tête du CNDC, le Centre National de Danse Contemporaine. Le 31 janvier prochain, les 1er et 2 février, il présentera ses premières productions. Nous l'avons rencontré hier au milieu d'une journée de répétition au Quai. C'est Claire Rousier, la directrice adjointe du CNDC, qui a eu la gentillesse de traduire les propos de Robert Swinston. Bonjour Robert Swinston, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Campus.
Bonjour.
Alors vous avez pris vos fonctions au CNDC en janvier 2013, il y a un an, à la suite d'Emmanuel Wynne. Comment s'est passée cette prise de fonction ?
Depuis que je suis arrivée donc en janvier 2013, j'ai engagé beaucoup de changements, surtout au niveau de l'école supérieure de danse ici du CNDC, et notamment concernant les liens que l'école tisse maintenant dorénavant avec l'Université d'Angers, ce qui n'était pas le cas auparavant. Un autre de nos partenaires importants est le pont supérieur qui se trouve à Nantes.
Relationships that we are creating in Nantes with the pole superior.
Comment est-ce que vous vous inscrivez dans l'histoire de ce centre national angevin ?
Je pense que je suis en ligne droite de l'histoire de l'héritage du CNDC, puisque Alvin Nicolaïs avait pris les fonctions en tant que premier directeur donc, du CNDC en 68. Ensuite, Viola Farber lui a succédé. Viola Farber qui d'ailleurs a travaillé avec Nurse Cunningham. Et moi-même, j'avais répété pendant 8 semaines en 1984 avec Merce Cunningham. Enfin, j'étais invitée ici au CNDC avec la compagnie et nous avons répété ici pendant 8 semaines.
Alors, vous parliez de Merce Cunningham. Vous avez dansé dans sa compagnie. Je crois que vous avez été aussi son assistant. Comment est-ce qu'on porte un tel héritage aujourd'hui?
I am a teacher of the Merce Cunningham technique as well as his répertoire.
Oui, j'ai été à la fois danseur, assistant de Merce Cunningham, et j'enseigne également la technique de Merce, ainsi que son répertoire que je transmets. Ce que j'ai commencé à faire ici au niveau de l'école, j'ai commencé par enseigner aux étudiants la technique de Merce Cunningham et d'ailleurs j'ai créé un event pour eux. Ce travail se prolonge actuellement avec les 8 danseurs que j'ai engagés pour faire partie de ma compagnie et qui vont eux aussi interpréter certains répertoires de Merce Cunningham.
Plus largement, comment se porte la création en termes de danse aujourd'hui en Europe et aux États-Unis?
Je trouve qu'il y a vraiment tellement de danse en France actuellement, beaucoup plus de propositions qu'aux États-Unis. Donc je l'explique parce qu'il me semble que c'est une part de la culture ici, cette présence de la danse, parce qu'elle est présente via différents programmes pour les enfants au niveau de l'école. Ce n'est pas comme ici, l'art et la culture ne sont pas séparés, alors qu'aux États-Unis, l'art et la culture semblent plus séparés et aussi vous avez une culture qui est beaucoup plus ancienne que la nôtre.
Est-ce que vous créez un lien entre la danse aux États-Unis et le CNDC? Comment est-ce que vous faites des ponts entre les deux univers?
C'est particulièrement vrai au niveau de l'école. Nous invitons des professeurs qui connaissent, qui maîtrisent des techniques fondatrices modernes de la danse, comme celle de Merce Cunningham, mais aussi de Rosé Limon, d'Alvin Nicolaïs, de Trisha Brown, par exemple. Ces séances sont portées donc par des professeurs américains, mais sont suivies par des temps de création encadré par des chorégraphes et des artistes français qui visent à partir du matériel qui a été étudié de ce répertoire à le déconstruire et à recycler ce matériel pour aller vers une voie créative. Ce travail, les étudiants le font par eux-mêmes. Ils sont là dans une démarche créative en s'appuyant sur l'héritage et ce répertoire. Mais nous invitons aussi des chorégraphes français. Ce sera particulièrement vrai pour l'année prochaine, où notre programme est beaucoup plus international au niveau pédagogique.
Avant d'évoquer vos premières productions là, qui vont être présentées à la fin du mois et au tout début février, est-ce que vous pouvez expliquer avec quel objectif vous avez conçu la saison chorégraphique qui s'annonce ?
Mon objectif est de présenter une programmation très diversifiée avec une grande variété de types de spectacles en direction des citoyens d'Angers. Nous avons d'ores et déjà présenté une compagnie qui vient d'Afrique du Sud, qui s'appelle Viacathlon. Ensuite, nous présenterons mon travail, puis le ballet de Biarritz de Thierry Malandin. Ensuite, un jeune Américain qui s'appelle Daniel Linehan, qui est un performeur. Kader Atou, donc qui va présenter Roots et qui est un hip-hopper. James Carless et également Ambre Senatore, qui est une Italienne.
And finally, James Carles, oui, James Carles. And then after that, Ambre Senator.
Alors, on va se focaliser sur vos premières productions, donc le 31 janvier, 1er février et 2 février. Event, tout d'abord, un nom inventé par Merce Cunningham. Donc, j'ai vu sur le site du CNDC que c'était le fruit d'une technique de collage axée sur le hasard et les compositions aléatoires. Ouais. Comment ça se traduit sur scène en termes de chorégraphie, un event?
Well, c'est le méthode. That's the method of Cunningham. that he used.
L'event est une méthode de Merce Cunningham qu'il utilise régulièrement. C'est toujours la même dans les events. Et ces events sont en général organisés dans des espaces inhabituels. En fait, il organise des collages avec différents extraits de différentes pièces. Et dans chaque event, il change les morceaux choisis et l'organisation et l'ordre des séquences. Personnellement, je vais utiliser la même méthode de collage, mais je n'utiliserai pas le hasard.
I am not using par hasard in my construction of the event. It's simple.
La deuxième production, ça s'appelle Toujours fidèle, c'est votre création.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Hmm.
Ou c'est une surprise?
Oui, c'est une surprise. Mais it's, I don't really know what to say about Toujours fidèle. Basically, it's I'm giving myself a vehicle to dance with two younger dancers. And,
oui, c'est une surprise.
When I started working with them,
à dire vrai, je ne sais pas vraiment quoi dire de Toujours fidèle.
At the same time,
basiquement, il y a deux jeunes danseurs qui sont dans ma compagnie qui m'ont beaucoup inspiré, eux, en tant qu'interprète. Je me suis beaucoup aussi plongée dans la mythologie en regardant aussi les images qui en sont issues et notamment celles d'amour et de Psyché. J'y ai puisé mon inspiration. Il y aura un compositeur, la musique est écrite et interprétée par un compositeur allemand, c'est une musique électronique. D'une certaine façon, c'est un rêve.
It's electronic music. What can I say? I'm again. It's for me. It was. This is sort of a dream. I think it's a dream. And the two dancers are part of it. It's all made of movement.
Mais je dois dire que, bien sûr, dans cette chorégraphie, il y a beaucoup d'idées, mais c'est le mouvement qui est au centre. On pourrait lire un long programme sur le mouvement. C'est vraiment lui qui me motive et qui me pousse dans ce travail.
Et enfin, la dernière production, c'est Four Walls, qui est inspirée de la musique de John Cage. Comment faire pour chorégraphier la démarche de John Cage?
Oui, this is a quite an interesting story. It has to do with the Baryshnikov Art Center asked me if I could reconstruct Four Walls by John Cage. It was also
c'est une intéressante histoire. J'ai fait ce travail pour le Baryshnikov Art Center. En fait, Four Walls a été chorégraphié par Merce Cunningham en 1944. Donc sur la musique de Cage qui porte ce nom, et la musique dure 55 minutes, mais il ne restait que 40 secondes de matériel de la chorégraphie. J'ai donc essayé d'introduire une autre chorégraphie dans cette musique. J'y étais autorisée, j'ai fait cette proposition et j'y étais autorisée par le Merce Cunningham Trust. J'ai donc fait une adaptation à partir d'une œuvre musicale de John Cage et de deux chorégraphies, donc une pour lequel je n'avais aucun matériel. La musique de Cage est particulière, c'est une musique tonale, elle n'est jouée que sur les touches blanches du piano, et elle a un très fort pouvoir expressif. C'est un type de musique que John Cage a abandonné ensuite, mais cette musique apporte beaucoup d'émotions pour l'auditoire.
Has a tendency to direct the emotions. It affects the emotions. And the dance that I matched with it was called Double Toss, and that was made in 1992.
Double Tous, donc la pièce que j'ai introduite dans la musique de Four Walls, est une pièce qui date de 1993. C'est une pièce qui a été créée par Merce Cunningham à la suite du décès de John Cage. Il nous a juste donné les pas, il n'a jamais parlé. Et j'ai eu envie de reprendre cette pièce. Mais cette pièce ne durait que 30 minutes. J'ai donc fait encore un autre travail qui a été de complexifier et de compléter la chorégraphie pour aller jusqu'aux 55 minutes de la musique.
I had to make some adaptation and I had to make some new choreography to do it because the dance was only 30 minutes long originally. Also, I had to reduce it from the original 14 dancers to 8 dancers. So I was able to do that in 2012.
Je l'ai également adapté parce qu'à l'origine la pièce était faite pour 14 danseurs, là ils sont 8. Nous aurons le même pianiste que celui qui avait été promu par le Baryshnikov Art Center, qui est Alexis Lubimov, et qui viendra interpréter la musique live ici au Quai.
Merci beaucoup Robert Swinston d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci.
Les premières créations de Robert Swinston depuis sa nomination à la tête du CNDC seront donc à découvrir le 31 janvier, les 1er et 2 février au Quai. On marque une pause musicale et juste après on retrouve Pierre-Antoine et sa chronique politique. On va plus ou moins parler de Closer. Tout de suite donc on écoute Team Spirit, Fuck the Beach. You take me to the beach and I don't wanna go. You hold my hand out there and I said baby oh no. You keep on talking and acting nice. Écoutez le sous-marin sur Radio Campus Angers et voilà qu'on retrouve Pierre-Antoine, notre chroniqueur politique qui s'attarde sur l'actu de ce week-end People Politique. D'ailleurs, on se pose la question. Vendredi dernier, le 10 janvier, le magazine People Closer révélait, photo à l'appui, une éventuelle liaison entre François Hollande et l'actrice de cinéma Julie Gayet. Aujourd'hui, une question éthique se pose. Quel regard porter en tant que citoyen sur la vie privée du président ?
Elle est belle, hein ? Ah si, elle est belle. Bon, sûrement un peu trop âgée pour moi et peut-être un peu jeune pour François. Enfin, qu'est-ce qu'on le comprend ? Après l'affiche cachée de François Mitterrand, après les regards amusants de Jacques Chirac, après le divorce de Nicolas et Cécilia Sarkozy, les coucheries de François Hollande. Ils sont doués nos présidents, hein, de vrais hommes à femmes. Sauf que là, ça pique un peu plus. Au moins, les autres étaient plus ou moins discrets. Il faut dire que Sébastien Valliella, le paparazzi auteur des clichés de Closer, n'est autre que celui qui a révélé l'affaire Mazarine, fille cachée d'un autre François bien connu. D'ailleurs, c'est encore un presque François, qu'est-ce qu'ils sont nombreux en politique, qui va tirer le premier sur l'ambulance présidentielle. Jean-François Copé, le président de l'UMP, a dès dimanche déclaré que cette affaire était désastreuse pour l'image de la fonction présidentielle. et d'affirmer que lorsque la presse internationale parle de la France en ce moment, c'est pour parler soit de cette affaire, soit de l'affaire Dieudonné. C'est sûr que l'on n'en sort pas grandi, hein. Et c'est d'ailleurs pas le seul à l'UMP à condamner l'écart, ni vérifié ni démenti pour l'instant, de François Hollande. Tous les grands ténors de l'opposition ont certes appelé au respect de la vie privée, mais en ont également profité pour tacler le président. Même Sarkozy, hein, le miraculé de Bettencourt, sort de sa torpeur médiatique pour dire que Hollande trahit sa promesse d'exemplarité. Il est vrai qu'en 2012, en pleine campagne électorale, le candidat socialiste assurait alors que « moi président, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire ». Et la palme revient au député UMP du Rhône, Georges Fenech, qui a indiqué dimanche que la question de la démission de François Hollande devait être posée. Jean-Luc Mélenchon, leader du Front de Gauche, estime quant à lui que le président Hollande devrait être davantage habité par sa fonction. Ce que l'on sait au moins, c'est que Hollande a presque habité aux 20 rues du Cirque à Paris, ce que certains pensaient être le logement du dangereux malfrat corse Michel Ferracci, condamné en novembre dans l'affaire des cercles de jeu Wagram, ne serait que celui de son ex-épouse et de ses enfants, amis de longue date de Julie Gayet. Le véritable propriétaire a souhaité éclaircir la situation sur les ondes de France Bleu Pays Basque.
Vous n'avez évidemment aucune relation avec le grand banditisme corse.
Pas de chance, je ne suis pas corse, je suis charnègue, comme on dit ici, donc aucun lien avec la Corse. Je vois pas comment on peut affabuler que mon appartement servait de lieu de rencontre à des dessins qui sont plus ou moins limites.
Et du côté de la majorité ?
Alors là, c'est mitigé, hein. Alors que certains font front pour défendre non pas l'acte mais la vie privée du président, d'autres sont bien embarrassés, hein. Comment défendre ce qui ne peut être défendu, c'est-à-dire l'adultère? Les ministres ont tout de même défilé de média en média pour soutenir le chef de l'exécutif. Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, rétorque au président de l'UMP que ce qui est désastreux, c'est de faire une tentative d'instrumentalisation politique d'une affaire privée. Même son cloche chez le premier secrétaire du Parti Socialiste, Harlem Désir, pour qui M. Copé ne peut s'empêcher de faire de la politique politicienne et par ses propos indignes, c'est lui qui rabaisse le débat politique. Bon, puis c'est au tour des amis proches du président de la République d'entrer en scène. Stéphane Le Foll, ami de longue date du François Hollande, estime sur RTL qu'il y a des gens à l'UMP qui confondent vitesse de réaction et précipitation et absence de recul. L'opposition aurait peut-être dû laisser faire les journalistes qui se seraient chargés de poser des questions qui fâchent à François Hollande lors de la conférence de presse organisée aujourd'hui. Pour le ministre de l'Éducation nationale Vincent Peillon, ce n'est de toute manière pas sur sa vie privée que les Français jugeront le président de la République, avis relayé par le porte-parole du PS David Assouline qui s'exprimait hier lundi sur France Info.
On a beaucoup trop parlé de cela par rapport aux problèmes qui sont les soucis de nos concitoyens. Il faut renvoyer Clauser à ce qu'est Clauser. Vous voyez, la France a des traditions qu'il faut préserver, qui sont plutôt à notre honneur, qu'il faut défendre avec fierté. Il y a une séparation à préserver pour le bien de tous entre vie privée et vie politique.
Avant de penser au respect de la vie privée du président, qui n'a finalement que ce qu'il risquait, hein, à force de jouer avec le feu, on se brûle, il faudrait peut-être penser à sa compagne Valérie, qui elle n'a rien demandé. On entend très peu de voix prendre la défense de la principale intéressée. En tout cas, les usagers des réseaux sociaux ont bien raison de se marrer. Relayons le tweet du compte satirique Julie Gayet. Au lieu de s'intéresser aux courbes de sa maîtresse, le président devrait peut-être s'attaquer aux courbes du chômage.
Merci Pierre-Antoine pour cette chronique politique. On termine avec les plans sortis pour ce soir et demain. Ce soir donc au Musée des Beaux-Arts à 20h, une immersion dans le romantisme qui allie musique et histoire de l'art avec un médiateur des musées et Nicolas Dufetel, professeur au Conservatoire à rayonnement régional. À 20h30 à la passerelle sur le campus de Belbeil, les étudiants en histoire de l'Université d'Angers proposent la projection du film Harvey Milk de Gus Van Sant. Cinéma toujours à 20h30, les étudiants de l'ESEO projettent Oh Brother des frères Cohen au Théâtre en Bois. Et enfin le traditionnel Bœuf Blues au Terroir Coco à 21h. Demain, scène ouverte musicale à l'espace culturel de l'Université d'Angers. À 19h et pardon, à 21h23 demain au T-Rock, concert de Syntaxe Error. Voilà, il est l'heure de ranger les scaphandriers au placard. Antoine maniait le sous-marin ce soir, merci. Quentin et Pierre-Antoine m'ont accompagné en ce mardi, merci à vous aussi. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur notre site internet. À 20h, vous retrouvez Perfusion, l'émission santé de la radio, et à 21h, vous retrouvez The Johnny Clash Show. Avant de remonter à la surface, voici la traditionnelle bulle sonore. Hier soir, Arnaud Vajdic de West France, Yves Tréca-Durand du Courrier de l'Ouest et Yves Boiteau d'Angers Mag étaient dans le sous-marin pour parler des élections municipales. Ils livrent ici leurs pronostics. Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin. Demain soir, vous retrouvez l'Artichaut, le magazine culturel de Radio Campus Angers. Nous, on se retrouve jeudi à 19h. Bonne soirée sur Campus. Allez, bisous. Dernière question, il nous reste une minute, il va falloir aller vite. Votre pronostic pour le mois de mars, ça va être rapide, je pense, parce que...
Deux mois.
Deux mois de mars.
J'ai déjà posé la question sur une chaîne de télé. Les vents sont favorables pour Christophe Béchu, plus que jamais, j'ai envie de dire. Vu le score qu'il a réalisé en 2008 avec un contexte national qui lui était très défavorable... et une gauche qui n'était pas divisée à l'époque, je pense que cette fois-ci, il a toutes ses chances. Maintenant, il peut se passer d'autres événements. C'est mon pronostic. Voilà.
Pronostic d'Arnaud Vajdic.
C'est pas forcément mon souhait, attention, c'est mon pronostic.
Pronostic,
moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est-à-dire que, effectivement, il est arrivé dans la peau du favori, mais je trouve qu'il fait pas une très très bonne campagne. Il a attaqué avec des projets qui sont pas forcément très séduisant, un projet de musée d'art moderne dans la prison qui paraît complètement décalé avec la réalité des finances publiques. Et Frédéric Béatz, lui, joue une campagne qui est peut-être plutôt plus maligne. Plutôt que d'avoir une grande permanence en centre-ville, il en a trois dans les quartiers. Je pense qu'il est assez habile pour pas rentrer dans le jeu des petites phrases, la tentation à laquelle Christophe Béchu a eu du mal à résister. Et puis il y a un aspect qui va compter beaucoup, c'est-à-dire que si le Front National, en l'occurrence, arrive à avoir le nombre de candidats suffisants, il faut quand même se souvenir que cette année, il faudra que 10% des inscrits pour être au deuxième tour. Et si le Front National est au deuxième tour, ça modifie vraiment la donne en faveur de Frédéric Béatz. Sans compter que Christophe Béchu, lui, a fermé sa liste entre le premier et le deuxième tour et qu'il disposera d'aucune réserve de voix.
Yves Boiteau, votre...
Moi, je ne me hasarderai pas à un pronostic non plus. Je rejoins assez l'analyse de Yves, par contre, pour pondérer l'idée que les vents sont favorables à Christophe Béchu. Mais à la fois, moi, je m'en tiens au fait. Et c'est vrai que les exemples d'élections où on a deux candidats, entre guillemets, sérieux à gauche, alors il y en a deux à droite, on pourrait le dire, mais je donne un peu moins d'audience à Laurent Giraud, peut-être en me trompant, j'en sais rien. Mais les contre-exemples où un candidat de gauche l'emporterait dans cette configuration ne sont pas tellement fréquentes, quoi. Donc, peut-être que Frédéric Béatz ou Jean-Luc Rotureau fera mentir les faits, mais effectivement, j'ai plutôt tendance à penser que les vents sont favorables aussi à Christophe Béchu d'un point de vue aussi d'arithmétique politique, quoi.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.